20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, une série de concerts à la scène musicale et un podcast pour rendre la musique classique accessible à tous, mais aussi un orchestre appassionato dont il fêtera bientôt le 10e anniversaire et désormais également un label. Mathieu Herzog multiplie les projets avec la passion qu'on lui connaît, alors que vient de paraître son nouvel enregistrement avec appassionato autour de la mère de Debussy. Le chef d'orchestre passera un petit moment à notre micro ce soir. Le temps de notre tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Pelléas et Mélisande de Debussy à l'affiche du 15 au 25 février au Théâtre de l'Athénée à Paris, dans la rare version pour piano écrite par Debussy, une dimension intime donc qui renforce cette impression de huis clos de la pièce de Maeterlinck, avec donc pour remplacer l'orchestre les pianistes Martin Sureau et Jean-Paul Parna pour accompagner le Pelléas de Jean-Christophe Lagnès, la Mélisande de Marthe Davost, le Golo de Alidou Nombre ou encore La Geneviève de Marie-Laure Garnier, dans une mise en scène signée Moshe Leiser et Patrice Corrier. Parmi les anniversaires célébrés en cette année 2024, le bicentenaire de la naissance d'Anton Bruckner, anniversaire que fêtera vendredi et samedi l'Orchestre National de Lyon en interprétant sa monumentale 8e symphonie dans sa version originale qui n'avait encore jamais été jouée par l'orchestre. Et pour diriger ses musiciens, la chef australienne Simone Young, qui avait fait forte impression à Lyon l'année dernière dans le Requiem de Verdi. Peut-être l'avez-vous découvert sur notre antenne il y a 2 ans, lorsque nous avons diffusé son récital, merveilleux récital à la Fondation Louis Vuitton. Le jeune pianiste turc Can Çakmur s'était fait remarquer en 2017 en remportant le premier prix du concours international de piano d'Écosse, avant de briller l'année suivante au concours de Hamamatsu. Il poursuit depuis une belle carrière internationale et vient de nous offrir un nouvel album sous le label BIS, associant des impromptus de Schubert à des intermédiaires de Brahms. Schubert, un compositeur avec lequel Can Çakmur entretient des liens très profonds, dont il avait déjà gravé plusieurs sonates et qu'il sert avec beaucoup d'élégance et de tendresse, une tendresse que l'on retrouve d'ailleurs également dans l'un des derniers cycles brahmsiens, l'opus 119, qu'il a donc choisi d'associer ici aux pages schubertiennes. Can Çakmur, que l'on écoute ce soir dans quelques notes de l'impromptu Deutsch 946, numéro 2.
Thank you.
L'impromptu Deutsch 946 numéro 2 de Schubert par le pianiste Tjan Csakmur, un extrait de ce nouvel album Schubert Brahms que vient de nous offrir ce jeune pianiste turc, un album sorti sous label BIS.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est un orchestre, c'est une aventure musicale et c'est aussi désormais également un label dont on vient de découvrir le premier opus. Appassionato et son chef Mathieu Herzog nous entraînent ici dans cet enregistrement capté en concert à la scène musicale sur les océans, en compagnie notamment de Debussy et d'un autre compositeur français qui a merveilleusement célébré la mer, Jean Crasse, un album dans lequel nous allons nous plonger ce soir en compagnie de Mathieu Herzog. Bonsoir.
Bonsoir.
Créer un label, est-ce que c'est dans la continuité de votre aventure avec Appassionato? C'est la suite logique?
Oui, totalement. C'est surtout, vous savez, aujourd'hui, les labels ont des problématiques. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, peu de gens achètent des disques, il faut bien le dire. C'est normal, tout a été remplacé par le streaming. Et donc, on se retrouve parfois dans une logique commerciale qui ne m'allait pas. Et plutôt que de continuer à avoir des problématiques que je comprends, je ne critique personne, je comprends tout à fait. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir forcément enregistrer ce que je souhaitais, mais d'essayer de s'adapter à ce que nous demandent les plateformes de streaming, c'est-à-dire des formats très courts, etc., et éventuellement une ribambelle de tubes. J'ai préféré acheter ma liberté, d'une certaine façon, et avec mon collègue Léo Doumen, avec qui nous dirigeons Appassionato, nous avons eu l'idée de créer un label. Et nous avons trouvé un grand partenaire avec Naïf, qui était notre ancienne maison de disques, qui en fait aujourd'hui nous soutient dans cette démarche et nous permet de distribuer nos disques, etc.
Ce sont des enregistrements live. Cet album a été enregistré lors de concerts donnés l'été dernier à la scène musicale. C'est aussi l'occasion de mettre en avant le souffle du concert, la spontanéité du concert, l'audace, hein, le lâcher prise du concert.
Complètement. Alors c'est un petit miracle à chaque fois, parce qu'en général on travaille évidemment en amont, on répète pendant plusieurs jours. Et arrive le moment du concert. En général, on fait une générale quand même, ce qu'on appelle une générale dans notre métier, une répétition complètement comme un concert qu'on enregistre. Et à chaque fois, on se retrouve juste avant le live et avec notre ingénieur du son qui se trouve être un monsieur avec qui j'ai fait tous les disques d'Appassionato. À chaque fois, on se dit, c'est pas possible, ça va pas tenir. Et finalement, il y a toujours le miracle du concert. Et je crois que c'est quelque chose d'important aujourd'hui, parce que on peut tout faire hein, sur un disque. Aujourd'hui, je sais même pas si on a vraiment besoin d'enregistrer, tellement la technologie peut nous aider. Au moins, le live nous retourne un petit peu aux sources de l'enregistrement.
Dans cet album, votre nouvel album, Mathieu Herzog, avec l'ensemble Appassionato, vous jouez notamment la mère de Debussy, donc avec un orchestre considérablement étoffé. On sait que votre démarche avec Appassionato, vous nous l'avez raconté plusieurs fois à ce micro, c'est de faire de la musique de chambre, mais à l'orchestre. Est-ce que faire de la musique de chambre à 80 musiciens, c'est aussi évident qu'à 40 lorsque vous jouez la musique de Mozart, par exemple?
Non, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Cependant, c'est quand même toujours la même chose. C'est-à-dire que la musique de chambre à 4 ou à 80, c'est comment travailler l'ouverture des oreilles, en fait, tout simplement, du musicien qui joue. Puisque moi, en tant que chef d'orchestre, j'aime beaucoup cet exemple qu'un jour Daniel Barenboim m'a donné devant une caméra où on le voit baisser le bras et il dit « Regardez, il n'y a pas de son ». C'est-à-dire pour expliquer qu'effectivement le chef d'orchestre n'est pas un musicien, le chef d'orchestre est quelqu'un qui essaye de rassembler les énergies ensemble pour qu'on puisse avoir une interprétation. Et dans le travail que nous faisons avec Appassionato, l'idée est vraiment de s'ouvrir au maximum à la musique que l'on va jouer en la prenant et en faisant qu'à la fin je deviens peut-être pas inutile, mais presque. Et je dis ça, on ne voit pas mon sourire au micro, mais j'aimerais bien être le plus inutile possible, finalement.
Mais c'est aussi le plaisir de partager cette musique avec vos musiciens. Ce serait trop dommage de ne pas pouvoir en profiter aussi au concert. Vous avez donc choisi de célébrer les océans avec notamment La mer de Debussy, et puis une œuvre de Jean Crasse que l'on va évoquer également. Célébrer la mer, c'est traduire toutes ces ondulations, tous ces jeux de vagues, le souffle du vent. C'est travailler sur des textures sonores particulières.
Oui, principalement en musique française. On sait tous à quel point les compositeurs français sont un peu les champions du monde de l'orchestration, et on peut le revendiquer avec fierté, clairement. Il y a un talent chez Debussy, Ravel Et ce compositeur plus méconnu que vous citez, Jean Crasse, et Paul Ducas, qui est aussi sur ce disque pour une autre raison, mais qui quand même a un lien avec l'eau, tous ces compositeurs-là ont ce qu'on appelle ce génie de l'orchestration, c'est-à-dire ce talent incroyable pour venir utiliser le bon instrument au bon moment pour traduire une émotion. Et c'est vrai que, d'un coup, une œuvre que vous appelez « La mer », sans rien d'autre, sans sous-titre, juste « La mer », paraît absolument incroyable, parce que comment définir... Alors, ça fait appel à
notre... Il y a des sous-titres dans chaque partie.
Oui, hein, alors il y a des sous-titres des mouvements, mais c'est vrai, quand on le voit comme ça, on va écouter « La mer » de Debussy. Ouais. Donc, on va pas écouter un concerto ou une symphonie, on va écouter « La mer » de Debussy. Donc, en fait, notre imaginaire est stimulé par ce titre, d'une certaine façon. Et ce que fait Debussy, de façon admirable, c'est essayer de transcrire en musique ce que nous pouvons ressentir face à l'océan en général et qu'est-ce qu'il peut nous transmettre. Donc oui, vous avez des vagues, vous avez du tonnerre, vous avez du calme, vous avez des poissons qui sautent, vous avez toutes ces choses-là à l'intérieur de la musique.
Des sentiments extraordinaires,
exactement.
Des couleurs extraordinaires.
Thank you.
Jeu de vagues, deuxième partie de ce triptyque La mer de Claude Debussy, dans cet enregistrement qui vient de paraître, l'enregistrement de l'Orchestre Appassionato, sous la direction de Mathieu Herzog, qui est donc notre invité ce soir. Cette musique de Debussy, où l'on peut apprécier toutes ses couleurs, tous ses timbres, tous ses scintillements de la mer. Vous avez choisi d'associer Debussy à deux autres compositeurs, et notamment Jean Crasque, un compositeur peu connu. Pour le situer pour nos auditeurs, il est né en 1879 et mort en 1932. Qui, lui, était aussi un marin et même un officier de marine. Alors, contrairement à Debussy, qui ne voyageait que dans son imagination, Jean Crasque, lui, il a fait le tour du globe. Est-ce que cela se ressent dans sa musique?
Oui, je crois, oui. Alors, c'est un personnage extraordinaire. C'est-à-dire que c'est plus qu'un officier. Ça a été le plus haut gradé de la marine pendant très, très longtemps. C'est un contre-amiral, si je me trompe pas. Il a inventé un compas pour naviguer qui est encore utilisé de nos jours. C'est-à-dire que vous demandez à n'importe quel marin, il connaît la règle de Cras. Alors que nous, musiciens, ne connaissons pas forcément ce compositeur. Et il emmenait donc pendant ses longs voyages, il emmenait un petit piano qui avait été fait spécialement pour pouvoir rentrer dans la cabine du capitaine, et il composait. Des gens comme Ravel, Debussy, l'admirait beaucoup, le trouvait extrêmement talentueux, et c'est vrai, c'est un compositeur très talentueux. Et ce qu'il y a de différent entre, par exemple, La mer et Le journal de bord, qui est donc l'œuvre de Jean Crasque, c'est que autant dans Debussy, il y a une sorte de... Vous êtes face à la mer, vous l'admirez, vous la regardez sous tous ses angles et vous créez des sons pour qu'elle soit en musique décrite. Alors que Jean Crasque, vous êtes dans le bateau et vous avez les atmosphères de bateau, en fait.
Ah oui, de l'intérieur
vous
du bateau.
Avez, oui, dans le final, il y a quelque chose qui pour les gens qui l'écouteront et qui prêteront vraiment attention, à un moment, le moteur s'arrête avant de repartir. Et toute voile dehors. C'est-à-dire que vraiment, on sent il y a quelque chose qui bloque comme ça. Il utilise le hautbois qui s'arrête tout seul au bout d'un moment, qui fait une mécanique. Et puis ensuite, il repart, et là, il fonce vers le port, puisque enfin, il retourne, voilà. Donc, c'est vraiment les deux atmosphères tout à fait différentes, très intéressantes. Et j'avais très très envie, c'est vraiment une grande démarche qu'on a avec Appassionato, c'est d'essayer de retrouver des compositeurs un peu oubliés. Je crois qu'on a un petit peu tendance à oublier parfois des grands compositeurs du 19e et 20e siècle. Là où l'ère baroque a été fantastique, parce qu'elle nous a fait découvrir des compositeurs qu'on ne connaissait pas il y a 20 ou 30 ans, qui aujourd'hui ont mené courante, mais il y a le même travail à faire sur la musique romantique et sur la musique du 20e.
Voilà, donc avec notamment ce journal de bord, c'est une œuvre qui date de 1927. On sent quand même l'influence de l'impressionnisme de Debussy
dans cette
œuvre.
C'est complètement de la musique impressionniste.
Il y a un troisième compositeur qui, lui, n'a pas composé sur la mer, mais sur le thème de l'eau. C'est Paul Dukas avec son apprenti sorcier. C'est un clin d'œil, entre autres, à cette démarche éco-responsable, hein, comme vous l'expliquez dans le livret de cet album, Mathieu Herzog, que vous avez voulu développer par rapport à la mer, par rapport à l'eau, par rapport à la nature et tous les enjeux climatiques. Puisque dans l'apprenti sorcier, il y a un énorme gaspillage d'eau, c'est ça?
Exactement.
Qui nous ferait hurler aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'apprenti en question, qui doit normalement préparer l'eau du bain du maître, alors dans la version qu'on connaît tous de Walt Disney, exactement la même histoire, puisque on voit Mickey qui nettoie, mais dans le texte de départ, c'est il doit préparer le bain de son maître, et en fait, feignant qu'il est de prendre un seau, de remplir, il enchante des balais qui eux-mêmes ont porté des seaux pour remplir ce bain. Et il n'arrive pas à arrêter l'enchantement, le bain déborde, inonde le laboratoire, et il faut que le maître, heureusement, se réveille de sa sieste et vienne pour pouvoir arrêter ce massacre et ce gaspillage d'eau. Donc c'est vrai que c'était le clin d'œil, c'est-à-dire que on avait envie, une grande envie de défendre cette œuvre absolument fabuleuse de Paul Dukas, qu'on connaît grâce à Walt Disney, mais sinon Paul Dukas est finalement presque aussi inconnu que Jean Crasque, d'une certaine façon. Son œuvre est bien plus connue que lui, en tout cas, et on avait très très envie de défendre cette œuvre merveilleuse. Et c'est vrai que, en y réfléchissant, d'un coup, on s'est dit, mais c'est fantastique, parce que ça va nous permettre de passer ce message qui est fait sans aucune morale. Enfin, n'essayons pas de faire la morale à qui que ce soit, mais on est tous conscient aujourd'hui de l'importance de l'eau et de son gaspillage et du fait qu'il faut y faire attention. Alors un petit clin d'œil, faisons attention à l'eau en général.
Voilà, et vous êtes même rapproché d'une association Sea Cleaners.
The Sea Cleaners, oui, tout à fait.
Qui nettoie les océans.
Qui nettoie les océans depuis de nombreuses années, tout simplement une rencontre un petit peu par que nous avons totalement provoqué du côté d'Appassionato, c'est-à-dire que nous avons entendu parler de The Sea Cleaners et nous avons été touchés par leur action et leur façon de le faire. Je répète, nous ne faisons la morale à personne et eux non plus. Ils n'ont pas du tout cette vocation-là. Tout ce qu'ils font, c'est nettoyer et nettoyer au maximum les océans avec leurs moyens. Ils ont créé un bateau extraordinaire qui ramasse des déchets en temps record. Ils ont beaucoup de bénévoles qui vont tout simplement sur les plages, etc. Et quand on voit aujourd'hui l'état du plastique dans les océans, on se dit que c'est quand même très très bien de soutenir ça. Donc nous leur avons proposé de leur reverser une grande partie, je voudrais pas dire de bêtises, mais plus de 20 ou 30% de tout ce que nous rapporte ce disque va directement à The Sea Cleaners. Et eux-mêmes sont venus au concert où on a enregistré, c'était une grande fête. On avait 300 personnes qui n'avaient sans doute jamais entendu la mer, mais qui étaient là pour découvrir cette œuvre géniale.
Oui, d'autant que vous aimez, Mathieu Herzog, faire découvrir la musique à ceux qui ne sont pas forcément familiers de ce répertoire classique. C'est ce que vous faites régulièrement à la scène musicale avec Appassionato. Dans le cadre de cette série de concerts, vous trouvez ça classique?
Oui, c'est plus qu'une vocation. C'est vraiment devenu presque une obsession, j'oserais le dire. J'en rêve la nuit de comment je pourrais encore expliquer mieux la musique, comment je pourrais amener des gens. J'ai regardé il y a peu de temps ce nouveau film dont tout le monde parle, Maestro, à propos de Leonard Bernstein, où d'ailleurs ils font assez peu référence à son côté, comme ça, facilité.
Pédagogue, je ne sais
plus quel mot, qui explique tellement bien la musique,
ces fameux
children concert qu'il faisait, et tout ça, et qui était une démarche merveilleuse. Et c'est vraiment dans cette continuité-là, parce que je fais finalement exactement la même chose. J'explique au public, puis je dirige, puis je voilà. Et je crois vraiment qu'il nous faut, nous musiciens, tendre la main au public en général. Il y a tellement de gens. Les statistiques qu'on a sur nos concerts sont extraordinaires. C'est-à-dire que les gens qui viennent pour la première fois à un concert classique, c'est plus de 25%. Qui reviennent pour une deuxième fois, on va dire 35%. Qui invitent des gens, c'est des cadeaux de Noël. Parce que finalement, plein de gens veulent comprendre la musique classique. Radio Classique, puisqu'on y est, c'est pas pour faire de la flagornerie, fait partie des radios qui justement ouvrent beaucoup plus la porte à tous les auditeurs. Et je pense qu'il faut absolument arrêter avec cette espèce de... J'ose le mot de snobisme qu'on peut parfois avoir dans notre monde classique, de penser qu'il va falloir que l'auditeur se débrouille. Je pense qu'il faut aider l'auditeur et lui tendre un peu la main. Et il faut pas grand-chose pour qu'il franchisse la porte.
Juste
qu'après,
quelques clés d'écoute.
Et oui, et puis la culture a ça de merveilleux, c'est qu'à l'inverse du Coca-Cola, quand vous buvez 3 Coca-Cola, vous êtes dégoûté. Quand vous voyez 3 concerts, vous avez envie d'un 4e concert.
C'est vrai. Donc, le 9 mars, avec la mère de Debussy, donc on peut écouter le disque et découvrir aussi l'œuvre de Jean Crasse qui est magnifique. Et on va se quitter justement avec quelques notes de ce journal de bord de Jean Crasse, non sans rappeler les autres rendez-vous, puisque vous ne jouez pas qu'à la scène musicale. Avec Appassionato, on pourra vous entendre notamment au Théâtre des Champs-Élysées dans un Pierre et le Loup au mois de mars.
Tout à fait, dans la série de Jeannine Rose, absolument.
Avec Alex Vizorek et puis des animations de Grégoire Pont qui fait des animations magnifiques. D'autres rendez-vous avec d'autres orchestres, avec d'autres projets, Mathieu Herzog?
Alors bien sûr, oui, moi j'ai quand même une activité de chef d'orchestre en dehors d'Appassionato. J'entretiens une très grande relation avec le Kansai Philharmonic au Japon, à Osaka, par exemple, où je vais régulièrement. Je dirige d'autres orchestres. Nous serons, pour le coup, avec Appassionato aussi cet été, au Festival de Glanum, à côté des Baux-de-Provence et de Saint-Rémy-de-Provence, dans ces régions-là, au Festival de Verbier, en Suisse, à la Côte-Saint-André, au Festival Berlioz, etc. Donc nous avons une activité bien remplie.
Et puis l'année prochaine, ce sera les 10 ans d'Appassionato 2025.
Et bravo, ce sera les 10 ans d'Appassionato qu'on prépare de pied ferme.
Voilà. Merci infiniment, Mathieu Herzog. On va se quitter avec la musique de Jean Crasse. C'est un extrait de ce journal de bord. Merci beaucoup.
Merci, Laure.
Un extrait du journal de bord de Jean Crasse par Mathieu Herzog et son orchestre Appassionato. Un nouvel extrait de cet album sorti sous le label de l'orchestre Appassionato avec donc également la mère de Debussy et l'apprenti sorcier de Ducas. La mère de Debussy au programme du prochain concert de Mathieu Herzog avec Appassionato à la scène musicale. Ce sera le 9 mars dans le cadre de ce cycle Vous trouvez ça classique. Mathieu Herzog vient également d'entamer une série de podcasts sous forme de rencontres imaginaires avec de grands compositeurs intitulé également Vous trouvez ça classique, à découvrir notamment sur le site de Radio Classique. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Mathieu Roclago pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du violoniste Théotime Langlois de Swart qui viendra nous présenter son merveilleux enregistrement dédié à Vivaldi. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.